Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Anne-Marie Lecouviour, la mort en héritage. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Agnès Hubschmann, réalisé par Bernard Faron. Bonne écoute.
Anne-Marie et Eugène Lecouviour. Quand ils se sont rencontrés, ils avaient déjà chacun trois enfants et des vies bien établies. Mais ils ont eu le coup de foudre, alors ils ont divorcé.
Et ils se sont mariés.
35 ans après, c'était toujours l'amour fou. Quand Anne-Marie a été tuée dans leur grande maison du Morbihan, Eugène parlait toujours d'amour. Pourtant, chez les enfants Lecouviour, on parlait plutôt d'argent. Dans cette affaire à la Claude Chabrol, l'argent a fait tourner la tête à tout le monde. Eugène avait fait fortune, il l'avait partagée entre ses enfants, mais cela ne suffisait pas, il y avait l'héritage encore. À qui reviendrait-il? Aux enfants d'Eugène ou à ceux d'Anne-Marie? Anne-Marie, en tout cas, en est morte.
Jeudi 9 avril 2009, 23h30. Il n'y a pas âme qui vive dans les rues du village de Grandchamp, dans la plaine du Morbihan. À l'écart du village, cerné de hauts sapins, le domaine du moulin de la Chênaie est encore éclairé. Dans la grande bâtisse bourgeoise, monsieur et madame Lecouviour montent tranquillement se coucher. Et ce soir, comme tous les soirs depuis 35 ans, Eugène regarde Anne-Marie avec amour. Il a 90 ans, elle en a 75.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Lecouviour.
Eugène disait à son épouse qui, le matin, s'était rendu chez son coiffeur pour se faire belle. Il avait dit que tu es belle, ma fleur, tu es une véritable rose. Et je te remercie du bonheur que tu m'apportes.
À minuit, après un dernier baiser, les époux Lecouviour s'endorment.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour.
Le téléphone a sonné, sur le coup, j'étais en plein sommeil, il était vers 3h, 3h15 du matin. Et là, j'ai eu Catherine qui me dit, faut que tu viennes à Grandchamp, il y a eu un cambriolage, faut que tu viennes tout de suite. J'ai pris ma voiture et j'ai fait les 20 km qui me séparaient de chez ma mère, terriblement angoissé, bien évidemment, puisque je n'avais pas de détails. Et quand je suis arrivé, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un problème. Il y avait des gendarmes partout. Il y avait des véhicules de pompiers partout. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, là. Et quand je suis rentré dans la maison, et que j'ai vu mon beau-père parfaitement bien, je l'ai embrassé, je lui ai dit, ça va, tu vas bien? Je lui ai dit, maman, elle est où? Et là, j'ai eu une réponse qui m'a, mais alors, achevé complètement. Il m'a dit textuellement, et c'est une phrase que jusqu'au dernier jour de ma vie, je me souviendrai, il m'a dit textuellement, t'as plus de maman. Voilà. Et je suis allé voir les gendarmes qui étaient là et j'ai dit, je veux voir maman. Et on me dit, non, c'est hors de question. Elle n'est pas dans un état où vous pouvez la voir.
À l'étage, les gendarmes et le médecin sont penchés sur le corps d'Anne-Marie Lecouviour. Ils viennent d'abandonner les tentatives pour la réanimer.
Adjudant Christophe Chevalier, brigade de recherche de Vannes.
C'est un cambriolage qui a mal tourné. Décès d'une personne. Tout de suite, on est frappé par la violence de l'effraction.
Anne-Marie Lecouviour est apparemment morte asphyxiée par un bâillon de ruban adhésif. Assis dans la salle à manger, bouleversé, Eugène Lecouviour, lui, n'a que quelques ecchymoses. Il est rapidement entendu par les gendarmes.
On sent M. Lecouviour sur le choc de par de la violence de l'agression et en raison de son âge, mais quelqu'un qui parle très calmement, qui déjà tout de suite nous donne les premiers éléments très calmement. Il n'a pas de blessure apparente, il nous parle qu'il a été ligoté. On suspecte quelques traces, évidemment, au niveau des poignets et au niveau des jambes, mais rien de plus.
Christophe Le Gall, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Il explique que le couple s'est couché vers 23h30 à peu près. Ils se sont endormis vers minuit et quelques temps après, il entend sa femme lui dire que quelqu'un frappe à la porte, donc à la porte du vestibule, puisqu'en fait, il y a un vestibule et une chambre. Sa femme se lève, la première, et alors que lui va pour la rejoindre dans le vestibule, il se retrouve plaqué au sol, projeté en arrière par un individu cagoulé et ganté. Il se rend compte qu'un deuxième individu s'occupe de son épouse, elle, dans le vestibule.
L'agresseur le ligote avec du ruban adhésif, au poignet, aux chevilles et sur la bouche.
Les auteurs, donc, en intervenant, lui demandent où est le coffre à deux reprises. Donc, surpris par leur question, il leur répond qu'en fait, il n'y a pas de coffre. Et son épouse fait la même réponse de l'autre côté, qu'il n'y a pas de coffre au domicile.
Une dizaine de minutes plus tard, le silence est revenu. Les voleurs ont quitté la maison. Eugène Couviot réussit à se défaire de ses liens.
Une fois libéré, il revient dans le vestibule pour porter secours à son épouse. Et là, il se rend compte qu'en fait, elle est en position ventrale. Il la place sur le dos. Et là, il se rend compte qu'en fait, elle a un masque de scotch qui lui obstrue complètement les voies respiratoires, puisque le masque part du menton jusqu'au front, en fait, quoi. Donc, il couvre les yeux, le nez et la bouche. Donc, il lui enlève ce masque. Il procède à des gestes de réanimation. Mais malheureusement, donc, il se rend compte que son épouse est sans vie.
Philippe Le Couviot, vous êtes le fils cadet d'Eugène Le Couviot. Vous êtes venu avec votre femme Isabelle. Anne-Marie, c'était votre belle-mère.
Effectivement, c'est la seconde épouse de mon père, et par là, ma belle-mère, de fait. En 1975, mon père demande la séparation avec maman, et pour rejoindre donc Annette. Ils se connaissaient depuis longtemps, puisque Charles Hamond était donc le mari de Annette, et il livrait à ce moment-là de la literie sur les marchés locaux.
Survient donc le drame. Qui vous prévient ?
Mon beau-frère me téléphone vers 7h du matin, le vendredi matin, me disant « Philippe, il y a une terrible nouvelle, il y a eu un cambriolage à la Chênaie à Grandchamp, et Annette est décédée ». Vous imaginez le choc émotionnel que nous avons. Je décide à ce moment-là, évidemment, de rejoindre immédiatement Grandchamp. J'arrive là-bas, je trouve mon père dans un état anéanti, dans un chamboulement terrible, évidemment sous le choc.
Et il peut vous raconter ce qui s'est passé ? Il a vu ses agresseurs ?
Il a ce courage de me raconter ce qui s'est passé, me disant qu'il ne savait pas exactement ce qui avait été volé. Il s'était rendu compte, évidemment, que sa chaîne, il l'avait arrachée, que sa chevalière était également enlevée. Et puis, donc, après...
La maison était isolée, ils avaient déjà été cambriolés.
Alors, ils avaient fait l'objet de cambriolage auparavant, aussi bien Grandchamp, et simultanément, d'ailleurs, à 15 jours d'intervalle, Grandchamp et leur résidence secondaire de Vence, dans les Alpes-Maritimes.
Votre père, Eugène Couviot, en fait, c'est une figure locale, c'est ça ?
C'est une figure locale, effectivement, un industriel important. Il s'était lancé dans la politique, maire de Pluvigné depuis 1966. Dans cette fonction, il a assuré 5 mandats, conseiller général avec d'autres responsabilités régionales et député suppléant.
En fait, c'était aussi le plus grand employeur de la région, c'est ça ?
Nous avons été au bord des 1000 personnes pendant pas mal d'années.
Au matin, un hélicoptère de la gendarmerie survole le domaine du Moulin de la Chênaie et 80 enquêteurs partent en quête d'indices dans la propriété.
Adjudant Christophe Chevalier, brigade de recherche de Vannes.
C'est un lieu assez hors du commun car c'est la propriété de Monsieur Le Couviot, qui est quand même une figure locale. On est quand même sensibilisé par rapport à ça. C'est un environnement qui n'est pas commun.
Les gendarmes suivent les cambrioleurs à la trace. des marques de coups sont relevées sur la porte arrière de la maison.
Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Ils ont accédé à la partie chaufferie. Ils ont également commencé à commettre une effraction sur la porte qui communique à la cuisine, mais ils ne sont pas parvenus à l'ouvrir. Donc, ma foi, ils se sont rabattus sur cette baie vitrée qui donne, on va dire, sur l'arrière de la maison. Il y avait 9 impacts sur une vitre anti-intrusion avec un trou béant par lequel étaient passés donc, les deux individus.
Les 9 impacts ont été faits avec une hache qui est retrouvée plantée dans la partie haute de la véranda.
Adjudant Yannick Felipe, brigade de recherche de Vannes.
Ça génère forcément un bruit qui est important.
Je pense que c'est d'ailleurs, à mon sens, qui a dû réveiller Madame Lecouvure, ce qui a vraisemblablement incité les gens à monter rapidement après l'effraction, donc au premier étage. On pouvait supposer que quelqu'un avait chuté puisqu'une chaise avait été renversée dans la salle à manger.
Des bris de verre mènent à l'escalier, puis à l'étage, jusqu'à la chambre du couple.
La porte de la chambre avait bien été fracturée, puisque le chambranle de la porte, les débris de bois étaient à l'intérieur, et le pend était en position verrouillage, et on trouvait une trace de semelle de chaussure sur cette porte.
Mis à part ça, les cambrioleurs ont été plutôt discrets. Ils portaient des gants, ils n'ont laissé quasiment aucun indice. À part un rouleau de ruban adhésif abandonné dans la cuisine. Les enquêteurs s'étonnent même du peu de désordre dans la maison.
Seul le vestibule et la chambre occupée par le couple a été fouillée. Aucune autre pièce n'a été fouillée. Il y a juste dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée, où des petits meubles, les tiroirs ont été vidés de leur contenu au sol. Donc ça nous intrigue quand même particulièrement. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je vous rappelle qu'ils ont demandé où était le coffre. On constate que plusieurs tableaux dans la maison sont présents, des glaces, rien n'a été bougé, les tableaux n'ont pas été enlevés pour vérifier la présence d'un coffre ou pas derrière.
La fille d'Anne-Marie Lecouvure qui arrive au petit matin ne cache pas sa surprise.
Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouvure.
J'ai dit à mon mari, mais ils n'ont rien touché à part le meuble de l'entrée. Dans la salle à manger, rien n'avait été touché. Et dans la cuisine, on a pu aller aussi. Rien n'avait été touché. Et il y avait 200 euros dans son sac. Donc, on n'a pas compris qu'il soit parti avec juste si peu de bijoux.
Un autre élément trouble les enquêteurs. Une constatation faite sur le corps de la victime, ou plutôt sur son visage.
Un bâillon d'adhésif lui a été ôté. Celui-ci... Et encore accroché à l'arrière de sa chevelure côté gauche.
Et ce bâillon, pour le directeur d'enquête, c'est du jamais vu.
Il ne s'agit pas d'un bâillon, c'est le masque, est vraiment le terme approprié pour ce type de ruban adhésif. En fait, c'est un placard de scotch qui a été apposé avec force sur le visage de la victime, puisque on voit encore l'empreinte du nez dans le masque. C'est absolument pas compatible avec une neutralisation de personne. Vous mettez un ruban adhésif sur la bouche, à la limite sur les yeux, et vous n'obstruez pas totalement les voies respiratoires. C'est impossible, après avoir apposé ce ruban adhésif sur son visage, qu'elle puisse vivre. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
Dominique, quelles sont les conclusions du médecin légiste qui a autopsié Anne-Marie Lecouvure?
La cause directe de son décès, du décès de Madame Lecouvure, c'est une asphyxie mécanique. On lui a occulté complètement les voies respiratoires avec du ruban adhésif. Elle est morte, étouffée. Et puis, sur la scène de crime et sur son corps, il y a des traces d'une grande violence. L'application du bâillon a été associée à des manœuvres d'enserrement de son cou. En fait, on a tenté de l'étrangler. Et c'est pour ça qu'elle a des ecchymoses sur le cou. De la violence encore sur ses mains, sur ses avant-bras, parce qu'elle a tenté de se défendre, elle a été frappée. De la violence aussi dans la façon dont on lui a serré les mains, avec là encore du ruban adhésif, tellement serré que le ruban adhésif est quasiment entré dans sa peau. Elle a également des traces de coups sur le visage et le médecin légiste écrit des violences volontaires qui ont été commises et qui peuvent avoir été commises par plusieurs personnes.
Et ce ruban adhésif, comment il a été mis? Il a entouré le visage?
Non,
et la tête de Madame Lecouvure?
Pas du tout.
ceux qui ont fait ça avaient utilisé des morceaux de scotch qui étaient sans doute prédécoupés parce qu'ils font la même longueur. 21 morceaux quand on va, qui sont appliqués sur son visage. Le directeur d'enquête écrit que c'est un placard, que c'est un masque sur son visage qui va depuis le haut des sourcils jusqu'en dessous de son menton. Donc, 21 morceaux qu'on va enlever successivement au cours de l'autopsie. Et quand on va les mettre bout à bout, ça représente 6 mètres de ruban adhésif. Regardez, ça c'est 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Eh bien, on lui a mis 6 fois ça sur le visage. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est une mort qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a fait à son mari. Parce que son mari, lui, monsieur Lecouviour, il a eu un traitement qui semble être très particulier, puisqu'il n'a un morceau de scotch d'une dizaine de centimètres que sur la bouche et deux petits morceaux sur les yeux. Pourquoi une telle différence de traitement entre lui et elle? Et tout ça pourquoi? Pour quelques bijoux? C'est quand même très étrange.
Alors que les constatations se terminent, les enquêteurs observent avec soin la famille endeuillée réunie au moulin de la Chênaie.
Adjudant Christophe Chevalier, brigade de recherche de Vannes.
Très vite, on va ressentir comme une ambiance pesante, car ils ne se parlent pas. Quand on pose une question à quelqu'un, il faut la proposer à l'autre famille. Donc très vite, on sent une espèce de tension, que voilà, c'est vraiment le premier sentiment.
Alors que le drame devrait souder la famille, deux clans semblent s'être formés.
Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour.
J'ai senti comme un resserrement des liens du clan Lecouviour sur la mort de maman. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu de geste d'amour vers nous.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Lecouviour.
J'avais l'impression que j'étais pas avec des gens de ma famille à partir de ce moment-là. C'est l'impression que j'ai eue. J'ai très très peu discuté avec eux. Là, je pouvais pas, je sentais un malaise.
Les enfants déballent alors aux enquêteurs plusieurs années de rancœur et de disputes. Et les gendarmes se trouvent très vite plongés au cœur d'une saga familiale. L'histoire d'Eugène et d'Anne-Marie est au départ celle d'un coup de foudre. Quand ils se rencontrent en 75, Eugène et Anne-Marie sont tous deux mariés. Eugène a 3 enfants avec sa première épouse, Philippe, Catherine et Jean-Jacques. Et Anne-Marie, qui a 15 ans de moins que lui, a aussi 3 enfants d'un premier lit. Benoît, Thierry et Jean-Charles.
Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouviour.
C'était une époque où on divorçait très peu quand même. Il y a 37 ans, on divorçait très peu. Eugène Lecouviour était très connu. Et obligatoirement, ça allait jaser. Ça devait être vraiment une passion pour qu'il le fasse à ce moment-là.
Et c'est là que j'ai appris un soir que maman était partie et qu'elle ne reviendrait plus au domicile.
Et de franchir le pas, je pense que oui, c'était une grande preuve d'amour qu'ils ont fait.
Le mariage a lieu en 83. Et 35 ans plus tard, c'est toujours le bonheur.
De toute façon, ils se sont toujours aimés. Hein. C'était flagrant. Hein. C'était mon minou par-ci, mon minou par-là. Notre beau-père était toujours aux petits soins. On les a toujours vus heureux tous les deux.
Mais avec ce remariage, les premières tensions apparaissent entre les deux familles, qui s'apprécient peu et se fréquentent guère.
Les rares fréquentations qu'on avait avec la famille Lecouviour, je parle des enfants, c'était exceptionnel. Ça remonte à très 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 loin pour des anniversaires de mon beau-père. On avait quasiment pas de relation.
Exceptionnel. Comme dans ce film de famille, tourné à l'occasion des 80 ans d'Eugène.
Il y avait un malaise entre les enfants Lecouviour et ma maman.
Je pense que les enfants n'ont pas compris. Ils ont dû penser qu'ils étaient évincés de la vie de leur père.
Un malaise que tout le monde tente d'abord de ravaler devant le patriarche. Eugène Lecouviour est le prototype du self-made man, parti de rien et respecté de tous.
Maître Michel Peignard, avocat de Philippe Lecouviour.
C'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a commencé comme ouvrier agricole et qui a fini comme chef d'entreprise, qui a même connu la faillite.
Il y a eu le dépôt de bilan de la société Le Couvieur en 81, donc ils ont eu des moments difficiles. Je me souviens de maman qui est même allée voir le percepteur parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs impôts et qui reprisait les chaussettes.
C'était pas un mariage d'argent au départ, je peux vous le confirmer. Je peux vous le confirmer.
Toute la famille Le Couvieur retrousse alors ses manches.
Je vous présente ici le lit à hauteur variable.
Bon, je pense que Gênes donnait les grandes directives, mais ceux qui avaient la main dans les mains dans le cambouis, c'était surtout Jean-Jacques et Philippe.
Et 10 ans plus tard, en 91, l'usine Le Couvieur, devenue leader du marché du lit hospitalier, est revendue à une société américaine. À prix d'or.
Il a partagé le produit de la vente en parts égales, lui, son épouse de l'époque et les trois enfants.
Maître Philippe Billot, avocat des enfants d'Anne-Marie Le Couvieur.
Un pactole extraordinaire a pris naissance. Nous savons que les enfants ont eu environ 18 millions d'euros. C'est quand même assez extraordinaire. Mais néanmoins, l'argent rend les gens quand même difficultueux.
Entre les deux clans, le fossé se creuse. D'un côté, les tout nouveaux millionnaires, les Le Couvieur, et de l'autre, les enfants d'Anne-Marie, étonnés de ce nouveau train de vie.
Thierry Hamon, fils d'Anne-Marie Le Couvieur.
Là, ça a été l'euphorie, quoi, parce que c'était repérable en ville, hein, ça se promenait en Ferrari, ça étalait vraiment la fortune.
Jean-Jacques, l'aîné, a acquis d'abord un petit yacht. Je dis un petit yacht, il ne faisait que 18 mètres. Et n'étant pas assez grand, il en a acquis un second de 26 mètres avec un marin.
Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Le Couvieur.
Je vois que Catherine a acheté son château. Maman l'a regardé, lui a dit « Eh bien, ma pauvre Catherine, j'espère que vous aurez toujours quelqu'un, parce que vu le nombre de carreaux que vous auriez à faire, ça serait... » Maman était très... C'est des gens très, très pieds sur terre, donc de voir cette manière de dépenser leur argent, ça prêtait pour nous plus à sourire qu'autre chose.
L'ambiance familiale va encore s'envenimer à la suite d'une dispute chez les Le Couvieur. Tout va éclater un soir de juin 2006. La scène se passe dans un restaurant. Les enfants Le Couvieur ont invité leur père à dîner, mais avec une arrière-pensée.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de Jeanne Le Couvieur.
On lui fait croire qu'on l'invite pour rencontrer un responsable de la société américaine, etc. Et Jeanne a tout à fait l'impression de tomber dans un guet-apens.
Car en réalité, les enfants sont venus demander à leur père ce qu'il a prévu pour son testament. Le patriarche vieillit. En 2006, il a 87 ans. Et ses fils craignent à sa mort de voir une partie de l'héritage leur échapper au profit d'Anne-Marie et de son clan.
Jeanne Le Couvieur va très très mal le vivre. Il va partir et il va rentrer à Chénet. Et à partir de ce moment-là, il ne voudra pas voir ses fils.
Le patriarche est choqué par l'attitude de ses deux fils.
Christophe Legal, chef d'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Rennes.
Estimant que lui, il avait fait les choses bien, puisqu'il avait donné la part à chacun de ses enfants. Et donc, il estimait pouvoir faire ce qu'il souhaitait, de la part qu'il s'était destinée.
Jean-Jacques et Philippe Le Couvieur, eux, ne comprennent pas le silence de leur père.
Philippe Le Couvieur, fils cadet de Jeanne Le Couvieur, et Jean-Jacques Le Couvieur, fils aîné de Jeanne Le Couvieur, dans Prise Directe du 21 septembre 2010.
Papa, tu t'es remarié sous le régime de la communauté. Annette a des enfants, tu sais bien que ça va poser un problème. Ces enfants n'ont rien à voir avec l'entreprise, évidemment, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Quand on a commencé les discussions en 2006 parce qu'on voulait les avoir, il s'est fermé. Il ne voulait pas en parler.
C'est pas 35 heures qu'on faisait par semaine pour mener cette affaire. Et vous pensez que On aurait admis que tout ça, ça reparte à des gens qui n'avaient jamais levé le petit doigt, ou qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Bénéficient de tout ça. Mais non.
Maître Arnaud Collomb de Franciosi, avocat de Catherine, la fille de Jeanne Lecouvioure.
Ils n'ont pas le sentiment qu'ils ont hérité. Donc, lors de la vente, ils ont bénéficié non pas dans leur esprit d'un héritage, mais du paiement de leurs propres actions. Il y a un hiatus. Eugène, lui, pense qu'il a transmis. Et eux disent, on a le fruit de notre travail.
Benoît Hamon, la fille d'Anne-Marie Lecouvioure.
Ils sont revenus à la charge et leur père les a mis à la porte.
C'est dans ce contexte de conflit ouvert que survient le cambriolage.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Anne-Marie Lecouvioure, la mort en héritage. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.